Donc, on va éclairer un comme Malachim, les fanaves devant lui, et la Esavachi, vers Esaü son frère, Arsa Seir, en direction du pays de Seir, Shde Edom, du champ de Edom. Vous remarquez tout de suite la répétition de tous les termes. Je reviens sur le verset. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Et Jacob a envoyé des envoyés devant lui. S'il les envoyait, c'est devant lui. Oui ? Donc c'est répété. Est-ce que c'est bien clair ? Ensuite, El Esav arrive à Esaü son frère. On sait que son frère est Esaü et que Esaü est son frère. On le sait déjà. Il y a donc répétition. Arsa Seir de Edom, en direction du pays de Seir, du champ de Edom, c'est évidemment une répétition. Seir, c'est Edom, et Edom, c'est Seir. C'est comme si je disais que j'ai envoyé une lettre dans l'île de France, région parisienne. C'est la même chose. D'ailleurs, je n'ai pas envoyé aujourd'hui. Et je continue et nous retrouverons la répétition. Vaïsa Votam, les mots. Et il les recommanda en disant, Kotomeroun, ainsi vous direz, s'il les recommande de dire quelque chose, ce que vraiment ils diront. Alors c'est aussi une répétition. Vous suivez? Kotomeroun, l'Adoni et Esav, à mon seigneur ou à mon maître, à Esaü, Kohamar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Jacob, c'est encore une répétition, Eim Laban Garti, je séjournais chez la mère, Vaecha Avata, et j'ai tardé jusqu'à présent. Tout ça se répète. Bien. Alors prenons uniquement ces deux versets, parce que sinon on sera là encore demain soir à la même heure. Bien, alors nous allons prendre pour clé de cette exégèse, et on s'appuiera sur ce que dit Rashi, précisément ce que nous avons vu tout à l'heure à propos du premier texte. C'est que tout se passe comme si il y a un cas particulier de Jacob. Et c'est pourquoi c'est lui qui est nommé Israël, c'est le fait qu'il est capable de se mesurer tant à des forces divines qu'à des forces humaines. Alors de quoi s'agit-il d'abord dans cette notion de l'ange protecteur des ailes? Là je vais forcément rappeler pour certains d'entre vous qui ont déjà appris cela, mais très brièvement quand même pour les autres, c'est que on apprend du récit biblique qu'à un certain moment de l'histoire humaine, les nations sont apparues, c'est-à-dire les différents génies nationaux différenciés à partir d'une humanité qui était une. C'est très exactement après la civilisation de la tour de Babel, et lorsqu'il y a eu ce phénomène de la division humaine, qui est indiqué par la division de langage, des langues. C'est-à-dire alors que primitivement, l'humanité était universelle, indifférenciée, pas tellement indifférenciée, mais en tout cas je veux dire unanime, ce qui est resté uniquement comme nostalgie et comme espérance qu'un jour viendra ou reviendra le fait que l'humanité serait unie et donc il n'y ait plus les problèmes qui font de ce monde-ci pratiquement un enfer et le problème qui est celui de la rivalité donc de la guerre, et d'ailleurs c'est ce problème-là auquel on est occupé depuis le début du récit. Eh bien, cette unité a été perdue. Et il est resté l'égoïsme, les nations. Alors le Midrash nous explique que, à partir de ce moment-là, dans la réalité céleste, si j'ose dire, l'unité divine elle-même est elle est doublée par ce que le Midrash appelle familia shelemala, qui signifie la famille d'en haut. Et familia, c'est un mot emprunté du grec qui est passé ensuite en latin et qui fait partie de l'hébreu rabbinique de la Mishnah, donc du Midrash, qui veut dire la famille d'en haut, la famille céleste, c'est quoi? On dit aussi le tribunal d'en haut. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'unité divine absolue en soi, il y a aussi comme devant, et c'est l'expression biblique, tu n'auras pas d'autre dieu de devant ma face. Comme s'il y avait des dieux devant la face de Dieu. Vous voyez à quel verset je fais allusion. Donc ce qui est Elohim Acherim Alpanaï, vous comprenez? Et c'est effectivement une sorte de différenciation corollaire de la différenciation humaine. Je m'explique, si l'humanité est une, alors il n'y a pour Dieu qu'une manière d'être providence de l'humanité. Mais si l'humanité se différencie en autant de génies humains, alors il y a différentes manières pour Dieu d'être providence pour telle ou telle nation. Et ces différents visages de la divinité une sont appelés, finalement, dans l'angéologie, sont appelés les archanges, les sarim, c'est ça la familia shel ma'ala, le beddin shel ma'ala, c'est-à-dire les différentes manières de la providence divine corollaires aux différentes manières d'être homme. C'est-à-dire, si j'ose dire, Dieu s'occupant des Français ne peut pas avoir le même visage que Dieu s'occupant des Allemands, ou que Dieu s'occupant des Anglais, ou des Turcs. Vous comprenez? Il y a un sar, c'est-à-dire un archange, c'est-à-dire une manière pour Dieu d'être diminué à l'envergure de la manière d'être homme diminué que représente telle ou telle nation. Est-ce que c'est clair? Bon. Et ce qui signifie donc que chaque génie humain a littéralement un génie qui est son protecteur, qui est Dieu pour lui. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Il y a un cas particulier, c'est Israël, qui n'a pas de génie protecteur, parce que c'est Dieu lui-même. Et on comprend pourquoi. Parce que c'est en Israël que se cherche le visage total, unifié de l'identité humaine. Israël ne fait pas partie des goïms. Chacun des goïms a un sar, mais Israël n'a pas de sar. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob aura à lutter contre Ésaü, il aura aussi à lutter contre le génie d'Ésaü. Et je prends ce terme dans le double sens qu'il a en français. Génie, ça veut dire Stam, le génie d'une nation, son genre, sa manière d'être. Et puis ça veut dire aussi ce que le terme français a aussi comme sens. Un génie, ça veut dire un être céleste, qui est le visage de Dieu, providence pour lui. Et vous voyez, cette objection, que pourquoi c'est Jacob qui aurait... Je cite d'abord un midrash plus général qui éclairera le problème. Le midrash nous dit quand deux nations se font la guerre. Deux nations se font la guerre, elles se font la guerre sur le champ de bataille. Mais laquelle des deux gagne? Laquelle des deux gagne? Celle dont le sar est victorieux en haut. Il peut arriver, si vous voulez, que une nation plus faible soit plus forte qu'une nation plus forte. Et c'est un mystère. Vous comprenez? Indépendamment de tous les aspects de l'exemple que je vais vous donner, c'est quand même un mystère que l'Amérique soit pas venue à bout du Vietnam. Ou qu'en son temps, c'est pas les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, la Russie de la Finlande, vous l'avez fait. C'est vraiment mystérieux. On peut donner toutes les explications possibles et imaginables, ça reste, le fait brutal reste incompréhensible. C'est parce que le sar, au niveau des réalités morales, au niveau des réalités spirituelles, est plus fort. C'est-à-dire qu'à la limite, le sar du Vietnam, si c'est le cas, remarquez, entre la peste et le choléra, je ne sais pas ce qu'il vaut mieux choisir, mais pour le moment, c'est le cas. Le sar du Vietnam, c'est pas le Vietnam d'ailleurs, c'est le Viet Cong, c'est exactement, enfin le Viet Minh, comment on dit aujourd'hui, c'est le Viet Cong, le Viet Cong. Il y a plusieurs variétés de choléra, toujours. Mais, je veux dire, le sar du Viet, tout ce que vous voulez, est plus fort que le sar de l'Amérique tout entière. C'est-à-dire que c'est toujours à deux niveaux que ça se passe. Il y a la réalité terrestre de l'existence, et puis il y a la réalité essentielle dont l'existence est la manifestation dans ce monde-ci. Est-ce que c'est bien clair? Alors, l'objection dans notre problème, c'est pourquoi Jacob a, lui, à lutter contre Ésaü et contre le sar d'Ésaü. Comme a dit ce sar d'Ésaü quand il s'est révélé à lui, et le Midrash nous dit que c'est la dernière chose qu'il a dite et il a disparu. Il a été vaincu, il a disparu. Et il s'est résorbé. Tu as lutté. Pourquoi il faut que Jacob lutte et contre Ésaü Mamas, de chair et de sang, et il est plus de sang que de chair d'ailleurs, celui-là, et contre le sar d'Ésaü. Parce qu'il n'y a pas de sar, et contre. Parce qu'il n'y a pas de sar pour Jacob. C'est-à-dire, Jacob est cette manière d'être homme exceptionnel qui doit se débrouiller tout seul à lutter contre son rival et contre le génie de son rival. Alors que c'est le goyim entre eux, ça serait aux deux niveaux. Vous suivez? Est-ce que c'est bien clair? Bon, alors avant d'aller plus loin dans les Genèse, Et nous verrons d'ailleurs c'est effectivement ce que Jacob a réussi à faire à travers l'histoire. Avant d'ouvrir cette parenthèse que je vais vous dire, pour être un peu plus complet sur le sujet que à Israël, il n'y a pas de star, c'est pas si simple que ça. Il y a 2000 ans, lorsque Rome a vaincu la Judée sur les champs de bataille, elle a gagné la guerre en bas, mais elle l'a perdue en haut. Parce que nous sommes les Judéens, alors que les Romains, on ne sait plus où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, finalement, cette lutte contre le génie de Rome n'est pas finie. On est en train de livrer les derniers combats, mais elle est perdue pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce Jacob, dans cette occurrence historique, c'était la Judée d'il y a 2000 ans, qui a eu à lutter et contre les armées romaines, ça c'est les alliés en chair et en or, et contre le génie de Rome. Bien, nous avons mis 2000 ans pour lutter. La guerre en bas, on l'a perdue, tout de suite. Enfin, il y a eu des péripéties, la dernière c'était Bar Corba et puis Nigma. Mais la guerre en haut, eh bien, on a fini par la gagner. Et d'ailleurs, on a inventé tous les commandos de choc possibles et imaginables. Et le principal commando, c'était la religion chrétienne qu'on leur envoyait dedans, en plus, pour les tourner, pour les prendre par derrière. Et ils se rendent pas compte à quel point ils se sont fait avoir. Mais imaginez l'humour de cette histoire. Ils appellent avec componction la religion apostolique, catholique et romaine. Et puis, en tout cas, pour revenir à notre problème, effectivement, Jacob a eu à lutter contre Ésaü, l'homme, et contre le sar d'Ésaü, en haut. Est-ce que c'est bien clair ? Pourquoi ? Précisément parce que Jacob, par définition, n'a pas de sar, n'a pas d'archange, et c'est ça sa grandeur. Puisqu'il est la créature par excellence, la providence pour Israël, c'est Dieu lui-même. C'est très dramatique comme problème. C'est qu'il faut arriver à découvrir que nous sommes dans une cohérence monothéiste. Ça veut dire que, à la limite, ce Dieu protecteur du rival d'Israël, c'est le seul Dieu qui existe, en tant qu'il s'occupe de l'autre aussi, qui est aussi sa créature. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où ça va. Et par conséquent, vous voyez pourquoi Jacob est le héros par excellence. Parce que il lutte contre Dieu lui-même. Et pourquoi ? Pas parce que c'est un thème littéraire où le héros joue à lutter contre Dieu, mais c'est de la littérature, pas du tout. C'est parce qu'il s'agit du monothéisme. Il lutte contre son propre Dieu en tant que son propre Dieu s'occupe de l'étranger qui ne lui ressemble pas comme un frère, comme dirait Michel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est, nous sommes déjà dans la nuit de décembre, depuis aujourd'hui. Et c'est pourquoi, effectivement, l'histoire d'Israël a été si dramatique, parce qu'il faut toute une stratégie. Lorsqu'on s'adresse à l'adversaire, alors en même temps, lorsqu'on s'adresse à son protecteur en haut, c'est d'une certaine manière à notre propre Dieu qu'on s'adresse. Alors on prend le langage de Jacob, que je relis maintenant le verset. La Ishlach Yaakov Malachim Lefanav, et Jacob a envoyé des anges devant lui. Devant lui, ça c'est en bas, mais des anges c'est pour en haut. Nous verrons quels anges il a envoyés. Et la Esav Achiv à Ésaü, son frère. Arsa Seir, ça c'est en haut, Sde Edom, c'est en bas. La Isavotav Lemur, c'est clair maintenant ? Et il les recommanda en disant, Côte Merul, ainsi vous direz l'Adoni, à mon Seigneur, ça c'est en haut. La Esav, ça c'est en bas. Koamar Ardecha, ainsi a dit ton serviteur, parce qu'il est en bas et que c'est en haut. Yaakov, c'est pour d'en haut en bas. Aïmla, etc. Et ça continue comme ça, hein, dans toute la vache. Ça veut dire qu'effectivement, il y a langage dans cette stratégie qui s'adresse à ces deux niveaux à la fois. Nous avons compris clairement, pour la lutte, que Jacob a lutté et contre Ésaü d'en bas et contre Ésaü d'en haut. Et Ésaü d'en haut, c'est, c'est pas n'importe qui. C'est le Satan lui-même. Ça, on a appris ce qu'on a fait bien. Non, je vous montrerai pour vous, si vous voulez. Le problème de la naissance de Jacob est si difficile parce qu'un fils de Rivka, qui était elle, la sœur de Laban, la fille de Bethuel, l'araméen, c'est Rachav, Rachav, Rachav dans toute la famille, et elle est comparée à Keshoshana ben Achochim, Rebecca, elle est comparée à une rose parmi les épines. Et il est arrivé ça, il y avait des épines partout, et subitement une épine a donné une rose. Alors on est allé cueillir la rose pour que, par le parfum de la rose, on puisse avoir l'enfant qu'on attend. Vous voyez, dit les chrétiens aussi, c'est mis là. Et le risque, c'est que la rose donne des épines et puis c'est tout. Vous comprenez? Étant donné d'où vient Rivka, le fils de Rivka, c'est dangereux. C'est pourquoi il a fallu que Isaac prie pour que Rebecca enfante, parce qu'elle était stérile. Elle était stérile à cause de ce risque. Alors, les kabbalistes ont enseigné que Ben Rivka, ça fait Satan. Si vous calculez Ben Rivka, ça fait Satan. Pas la peine de perdre de temps à les additions, mais vous les faites bien. Exactement. Seulement, Yaakov Ben Rivka, alors ça fait Israël. Yaakov Ben Rivka, ça fait Israël. Mais la différence, si c'est un Sam Ben Rivka, ça fait Esaü. Ça fait Israël. Mais Yaakov Ben Rivka, ça fait Israël. Alors, c'est ce que d'ailleurs le Ben Israël ici, dans un autre endroit, il nous dit, Esav, c'est très dangereux, parce que Esav, on va le calculer ici, là, Esav, c'est bien. Esav, ça fait 373. C'est ça? 373. Je dis combien ça fait Nahas? 358. Et si on ajoute Haï, vivant, ça, j'ai fait ça, c'est Nahash Chai. C'est encore pire que Nahash. Vous voyez pourquoi on dit le samedi soir Kilo Nahash Be Yaakov. Al Tira Be Yaakov. Kilo Nahash Be Yaakov parce qu'il est chez Esav. Il y a un midrash qui dit que Esav est né avec un serpent tatoué sur la hanche. Vous connaissez ce midrash? Vous connaissez pas? Vous le connaîtrez un jour. Alors, à la fin. Bon, alors, le problème, c'est que. Mais vous voyez pas que ça tombe juste? C'est comme si vous me disiez que. Qui ont? Ça dépend qui. Vous savez, moi quand je vous dis le Ben Israël a dit que, ou Rabbi Akiva a dit que, c'est pas l'éditorialiste du Canard enseigné. ou le Midrash aussi. Non mais finalement, je vous dis ça, c'est tellement énorme que ça fait. Ça nous rend plein de joie, comme vous voyez. Je vous dis ça un peu de façon décontractée, parce que c'est effectivement énorme que le calcul est là, et ce que veulent dire les lettres, et l'histoire et la réalité, ça coïncide. C'est-à-dire, si on riait pas, on serait paniqué, alors il vaut mieux rire. Et le compte de l'humour, c'est de dire que peut-être c'est pas seul. Ça, c'est pas seul. Alors, revenons au problème. C'est que, de quoi on parle? Oui, je vous disais que Israël a été cette réalité historique qui a dû se mesurer les uns après les autres avec tous les génies des civilisations. Et que, quelles que soient les péripéties des combats proprement dit qu'on est obligé de livrer sur Terre, il n'y a pas de doute. Puis le dernier, on est en train de gagner, je ne sais pas comment on fait, mais on fait. Bon. Mais il n'y a pas de doute que Israël a démoli tous ses génies en tant que ses génies étaient devenus les idoles d'elles-mêmes, c'est-à-dire une défiguration du projet du Créateur. Et de l'Égypte ancienne, qu'est-ce qu'il est ? Des musées. De la Grèce ancienne, qu'est-ce qu'il est ? Des musées. Et de la Rome ancienne, qu'est-ce qu'il est ? Des musées. Mais Israël est, j'allais dire, ressuscité, c'est plus que ça, il est toujours vivant. C'est ce que dit la Midrash, Yaakov Avinu, l'homme. Et l'homme. Et donc cette lutte contre les Sarim, les uns après les autres, Jacob l'a réalisé, Vayochal, et il a pu. Il faut dire que dans cette péripétie, il a atteint à la hanche. Et que pendant toute la nuit de cette lutte contre le Sar de Esav, Jacob est boiteux, claudiquant, comme il faudrait dire, et c'est aussi dans Jacob qui le Midrash va jusqu'à dire quelque chose de très difficile à comprendre à première vue, qu'il boitait des deux ans, une naturellement et l'autre. Comment on fait pour boiter les deux ans? Et que finalement, à la fin de cette nuit de combat, va Yisrachlo à Shemesh, va Yavo Shalem, et il est entré dans sa perfection, Shalem be Mamono, be Gofo, be Torato, et ça, à la fin de la nuit, c'est de voir, c'est le même thème que Yeshuun, que Shalem, que va Yisrachlo à Shemesh, et il se dévoile qu'il a pu surmonter même toutes ces blessures qu'il reçoit dans le monde d'en bas. On parlera peut-être une fois de cette péripétie, mais il est certain que la Torah voulut nous donner une indication, que le Midrash reprend d'ailleurs, que pendant toute cette lutte, au terme de laquelle c'est Jacob qui arrive triomphant, Ésaü a des victoires. Et ces victoires, c'est toutes les familles d'Israël qui quittent Israël pour passer chez Ésaü. Et ce qu'on appelle l'assimilation, ou la conversion, ou l'apostasie, ou Stam, l'assimilation. Effectivement, puisque le nerf en question, l'Idanaché, qu'on traduit par le nerf sciatique, je ne sais pas de quel traducteur de quel siècle cette erreur vient en français, le Idanaché, c'est le nerf qui innerve les parties génitales, les organes génitaux. C'est-à-dire, c'est dans les engendrements que Jacob est atteint. C'est-à-dire, sa blessure, c'est les familles qui quittent sa descendance. Et pendant toute la nuit, et nous avons vécu cela aussi, qu'à travers tous ces combats, Jacob, comme clave, est toujours victorieux du génie qui est en face, mais il y a énormément de petits jacobins, si j'ai dit, d'ailleurs, il suffit de les appeler comme ça, qui s'assimilent à l'adversaire. En fait, la Gemara, je voulais vous citer, pour être un peu plus complet sur le problème, qu'il n'y a pas de Sar à Israël, la Gemara dit que ça c'est vrai quand Israël est vraiment Israël. Quand Israël est vraiment Israël, alors c'est Dieu lui-même qui est la providence d'Israël. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et comme on dit dans le langage théologique, il n'y a pas de médiateur. Et d'où ce destin difficile de Jacob, qui ne peut pas compter sur un médiateur dans sa lutte avec le Dieu unique, en tant que le Dieu unique est aussi le Dieu des autres. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que c'est une lutte terrible. Spinoza a un peu entrevu ça dans une de ses controverses avec Leibniz. Bon, enfin, je referme la parenthèse, on est un peu trop long. Donc, je vous cite simplement la phrase. Un jour, Leibniz, pour faire semblant de se moquer de Spinoza, lui objecte, je ne sais pas, ça peut peut-être intéresser les étudiants en philosophie, s'il y en a, si on n'a pas rien, lui objecte, d'après votre système, lorsque les Turcs font la guerre aux Allemands, ça veut dire que Dieu modifié en Turc fait la guerre à Dieu modifié aux Allemands. Alors, ce qu'il nous a répondu, oui. Ça ressemble un peu. Et pour revenir à notre problème, ça c'est quand Israël est vraiment Israël. Et quand Israël n'est pas vraiment Israël, quand il joue à ne pas être Israël, alors il a un sar, et ce sar s'appelle Michaël. Mais Michaël, c'est pas n'importe quel sar. C'est un sar, si j'ose dire, qui n'a pas de croissance personnelle. Parce que Michael, en hébreu, ça veut dire Michael, qui est comme Dieu. C'est-à-dire, lorsque Israël se fabrique un sar, alors c'est Michael, mais Michael a une seule chose à leur dire, c'est regarder plus haut, Michael. Oui. C'est-à-dire, même là, c'est un cas particulier. Ça veut dire, pour le dire de façon plus grossière, peut-être, même quand un juif est athée, il n'est pas athée de la même manière qu'un goy. Vous avez remarqué ça, déjà. C'est plus... un de mes maîtres m'a expliqué ça comme ça. Quand un goy est athée, il ne croit pas que Dieu existe, soi-disant. Mais quand un juif est athée, il croit que Dieu n'existe pas. C'est ça, ça se fait. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié l'angéologie, c'est de voir que quand les chrétiens ont repris l'angéologie juive pour l'appliquer à leur théologie, ils ont précisément attribué à l'Église, comme ça, comme archange, Saint-Michel, comme ils appellent. Et à la France aussi, d'ailleurs. La France, fille aînée de l'Église, ils lui ont donné le même sort qu'Israël, fils aîné de Dieu. Il va y avoir des chantailles mystérieuses entre les deux. Pour le moment, c'est un peu tumultueux. Et ça veut dire qu'au fond, de la part des fondateurs de l'angéologie chrétienne, une sorte d'aveu qu'en attribuant Saint-Michel comme archange à l'Église, et à la France qui venait de l'Église, qui était censée avoir le rôle d'Israël dans le monde chrétien, rappelez-vous Saint-Louis, pour qui se prenait. Et d'ailleurs, il a mis son trône, ce qui a rendu De Gaulle furieux quand Israël est rentré dans la ville, parce qu'il y avait le trône de Saint-Louis, là, il y a toujours, dans la ville de Jérusalem. Et De Gaulle voulait s'asseoir dessus. Et tout ça, c'est l'histoire réelle, d'ailleurs. Eh bien, ça veut dire qu'ils reconnaissent implicitement que l'Église est un Israël qui n'est pas exactement Israël, puisque, d'après les midrashim sur lesquels ils se sont basés, Michael est le sar d'Israël quand Israël n'est pas ce qu'il faudrait qu'il soit. Vous avez compris, vous avez... Bon. D'ailleurs, tous ces aveux, ce sont des clés qu'ils ont laissées dans les serrures, et le jour où il faudra ouvrir la porte, les clés sont déjà là. Bien, je referme donc cette parenthèse, et nous allons tout de suite voir cela dans 20 rachis. Vous allez suivre avec moi. D'abord le premier rachis. Le premier rachis où le texte dit « Vaishkar Yaakov Malachim » et Jacob a envoyé des anges. Le texte a dit « Jacob a envoyé des anges ». Et Rachis dit, si vous avez Rachis sous les yeux, Rachis dit « Vaishkar Yaakov Malachim » il dit « Malachim Mamash ». Des anges Mamash. Alors, ce Rashi est énorme, parce que voilà, Rashi qui se permet de confirmer le texte. Il dit, c'est le texte qui a dit que c'est des anges. Et Rashi nous dit, oui, c'est vrai que c'est des anges. Vous comprenez l'exégèse est très difficile. Il y a une façon d'expliquer un peu déjà profondément même. C'est que le texte dit en réalité, « Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav ». Nous avons compris tout à l'heure qu'il envoie Malachim et puis les Fanav devant Esaü. Mais en hébreu, Malachim, Vaishlar Yaakov Malachim les Fanav, ça veut dire que c'est vraiment des envoyés et il vient derrière. C'est pas qu'il va attendre que les envoyés viennent lui donner le feu vert. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est un feu rouge. Mais c'est pas qu'il attend que les Malachim reviennent en lui disant tu peux y aller. Il n'y a pas de danger. Il les envoie vraiment devant lui. Ça veut dire qu'il vient derrière. Donc, c'est des malachim mamas, à ce niveau-là. Vous avez compris ce pirouge? Comment? Ça veut dire... Mais des messagers mamas. Oui. Des envoyés, vraiment. Des envoyés, ça veut dire des gens qui sont chargés de dire « il vient ». Et pas des gens qui seraient chargés de voir s'ils peuvent venir. De toute façon, il vient. Ça veut dire l'initiative qu'il a prise, il l'a vraiment prise. Et c'était une initiative pour faire la paix. Et à ce sujet, d'ailleurs, dans le Midrash, ce texte, où on voit Jacob revenant de chez Lavan, prend l'initiative d'essayer d'amadouer Ésaü en lui envoyant des malachim. Et d'ailleurs, nous sommes spécialistes de ces mishmachot. On passe son temps à envoyer les plus grandes chez nous un peu partout. Et d'Afkash et Ésaü en plus. Et alors, le Midrash est très ambigu, est un jugement ambigu. D'un côté, il loue Jacob de sa probité, plus que sa probité, de sa vertu, de son humilité, que alors qu'il pourrait laisser de côté Ésaü complètement, Ésaü est disqualifié, c'est Jacob qui est Israël, c'est Jacob qui est Israël. Voilà Jacob qui a une vertu supplémentaire de tenter de sauver Ésaü par la paix et de le reconnaître comme son frère. D'un côté, un jugement positif. Et puis d'un autre côté, il y a le Midrash, la Shrina pleure en s'apercevant que Jacob veut faire la paix avec Ésaü. Qui est Ésaü? Et Jacob veut faire la paix avec lui, et Jacob veut le considérer comme son frère. Et c'est cette espèce d'ambiguïté qu'il y a eu, je vous donne un exemple. C'est pas un exemple, mais peut-être c'est plus qu'un exemple. Cette espèce d'ambiguïté qu'il y a eu dans ce conflit qu'il y a eu il y a quelques semaines, à propos de la semaine culturelle allemande. Alors, d'un côté, la réaction du peuple commande une semaine culturelle allemande ici, et puis d'un autre côté, les Araïben, et puis la stratégie, n'est-ce pas? Et bon, quand même, après le pire, oui, ces deux choses-là. Et les deux choses sont vraies. Mais, à la lumière de ce que nous avons appris tout à l'heure, alors on comprend qu'il puisse y avoir ces deux niveaux. Dans la mesure où effectivement Jacob tente de sauver ce génie de son frère, qui est l'adversaire, qui est l'échec, etc. Mais tente de le sauver, tente de sauver ses réalités célestes, alors le Midrash est content. Jacob est un surhomme, est un sur-héros. Jusque-là, il va. Mais dans la mesure où il s'agirait de composer avec l'échec réel tel qu'il a été dans le mal sur terre, alors là, c'est de la complaisance, et là, c'est de la flagonnerie, en fait, je ne sais plus comment dire ça, et là, c'est cette espèce de chose très désagréable. Lorsqu'on voit les Juifs en général, ils ont aussi l'habitude de ces deux attitudes, et surtout Israël, sembler, je dis bien sembler, parce que c'est une stratégie, évidemment, sembler faire fi de la dignité la plus élémentaire pour faire une réconciliation culturelle avec qui? Avec l'Allemagne, alors que tous les criminels nazis ne sont pas encore verroulés. Vous comprenez l'ambiguïté. Et alors, ce Vaïslav Yaakov Malachim, Malachim Mamash de Rashi, c'est en réalité une citation du Midrash. Et dans le Midrash, il y a une machloket. Certains ont dit, c'est Shiluche Vassar Vadam, des envoyés de chair et de sang, ça veut dire des hommes qu'il a envoyés. Et d'autres disent Malachim Mamash. Et Rashi a tranché en disant Malachim Mamash. Vous comprenez? Rashi a choisi dans le Midrash, dans cette machloket. D'abord, on comprend la machloket. Les deux ont raison. Parce qu'il a envoyé les deux. Dans Malachim, il y a les deux. Il a envoyé en haut des malachim et en bas des hommes. Et les malachim sont revenus lui dire, et voilà que, je vais vous dire le verset, vous allez le voir d'ailleurs, c'est dans le verset 7. Il y a souvent malachim et les anges sont revenus, alors que Jacob n'aurait pas demandé de revenir. Et Yaakov vers Jacob les morts en disant, « Banu elachicha el Esav, nous sommes allés chez ton frère, chez Ésaü, donc aux deux niveaux, chez ton frère en bas, chez Ésaü en haut. Le gam volé sikrafa, et même il vient à ta rencontre, vers un bar meoti shaimo, et avec 400 hommes, avec lui, 400 hommes de guerre. » Et c'est ce Végam. Végam, relève et crateux. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement Ésaü qui vient, il y a son génie aussi qui vient. C'est pourquoi le verset suivant, Vaïra, Yaakov, Méod, et Jacob a eu très peur, Vaïtserlo, et il a été dans l'angoisse. On verra d'ailleurs aussi ce verset tout à l'heure. Et ce Vegam est interprété par le Midrash de la manière suivante. Ce n'est pas seulement Ésaü qui vient faire la guerre contre Jacob. C'est le génie d'Ésaü qui vient lui-même. Vegam. Vous entendez en hébreu, Gam, ça veut dire il y a quelque chose de plus. Alors on relit cela à un verset du livre de Job. Vous savez, dans le début du livre de Job, lorsque le jugement va être sur Job, Job va être éprouvé. Alors vous avez le début du livre de Job en tête, c'est quelqu'un est un pour aller le verset. Alors on dit que les anges se sont rassemblés ce jour-là, les Gam à Satan de Tocham, et même le Satan avec eux. Alors le Midrash relit ce Vegam du Satan avec le Vegam du Saul. C'est-à-dire ce Vegam, et aussi c'est le Satan qui était avec eux. Alors c'est pourquoi vous avez un Tanakh en hébreu. De où? De Tocham. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jacob a eu très peur, nous allons voir tout à l'heure. Toujours avec répétition. Vaïra, vaïtserlo. Et ça veut dire donc que le Midrash a voulu mettre en évidence un chidouche. La Torah a dit que Jacob a envoyé des envoyés. Alors, pour un des enseignements du Midrash, le Pshat, c'est qu'il envoie des envoyés. Chez Esav, en bas. Mais il y a quand même un chidouche, parce qu'il a aussi une guerre à faire en haut. Alors c'est pourquoi le Midrash du Malachim Mamash. Et l'autre enseignement, c'est que la lutte normale de Jacob, c'est en haut, mais il y a quand même un chidouche qui est obligé aussi de lutter en bas. Vous voyez, nous avons retrouvé le verset du début, toujours le même terme, que Jacob a été nommé Israël parce qu'il lutte jusqu'à Rita, à Imelokim, à Imanachim, à Tuchal. C'est toujours ce verset qui nous sert de grille, si j'ose dire. Et alors, le vrai problème d'exégèse de Rashi, c'est pourquoi, alors que Rashi a les deux enseignements, pourquoi il choisit que le chidouche, c'est Malachim Mamash, ça veut dire des anges vraiment. Je crois qu'on peut l'expliquer de la manière suivante, en schématisant un peu. Rashi se trouvait en pleine civilisation chrétienne. Vous savez, il y a 1000 ans, à Troyes en Champagne, il était le maître de la communauté juive dans la France médiévale. Et par conséquent, il nous donne en quelque sorte un bilan historique que le combat de Jacob contre Esav, au temps où nous sommes, depuis Rashi, avec Rashi, c'est surtout le combat d'en haut. Lorsque Rashi nous dit des anges vraiment, ça veut dire que nous devons être occupés surtout à ce combat d'en haut, c'est-à-dire à la lutte contre le génie culturel de Rome. Et vous savez à quel point nous avons été trompés par le génie culturel de Rome. Nous avons tous fait des études secondaires, même parfois un peu plus, dans les écoles occidentales, et Rome nous est apparue comme une nation civilisée, alors que c'était, par rapport à la morale de la Bible, une nation de barbares. Et il faut le savoir. Alors, c'était la nation de la violence, de la guerre, la nation martienne par excellence, je dis. Edom, Esav, Harbechat Ishir. Et alors que les Occidentaux, donc, qui sont les héritiers de cette. Les Occidentaux, les rédacteurs des manuels. Ça c'est Yadaïm et Esav, c'est exactement ce manuel. Ils nous ont présenté ça comme étant une civilisation de noblesse. Enfin, vous avez encore dans la mémoire les patriciens et tout ce truc-là. Alors, c'était tous des débauchés, des crapules, des barbares. Alors, revenons en tout cas à notre. On s'est fait avoir par ça. Le juridisme romain, c'est la chose la plus épouvantable qu'il puisse y avoir par rapport au destin moral d'un peuple. Et ils ont poussé le jésuitisme, si j'ose dire, à nous traiter de pharisiens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu projeter le légalisme sur la tradition juive, alors que le légalisme, c'est chez eux. Vous voyez jusqu'où ça va. Bien. Comme disait l'ex, dura l'ex. L'ex, dura l'ex, très bien, c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est romain, c'est pas du tout italien. D'ailleurs, ils ont des lois en uranex. Donc, alors, revenons à notre problème. Alors que chez nous, la Torah s'appelle Rahamana, ce qui n'a rien à voir. Opposer Rahamana, quand le Talmud veut dire la loi dit que, il dit Rahamana, la miséricorde dit que. Et alors que eux, c'est dur à l'être. Et on a, vous savez, cette espèce de déculturisation des Juifs a été poussée au point qu'on a figuré les tables de la loi de Moïse avec le symbole des tables de la loi romaine. Vous savez, ces tables-là que tout le monde respecte, kadosh, on dessine ça sur le Aron HaKodesh, c'est les tables de la loi de Rome. Les vraies tables de la loi juive, c'était deux cubes. Enfin, hébraïque, c'est dire. Et alors, on a, avec piété et ferveur, on a dessiné ce symbole-là, alors que c'était primitivement la forme d'un bouclier romain. Et c'est la forme des tables de la loi de Rome, pas d'Israël. Regardez juste où c'est allé. C'est à quoi ça ressemble, le fait de fêter à Hanouka le Maccabiade, à la manière des Olympiades. Ça, c'est Roland Rancourt, c'est ça? Vous comprenez jusqu'où ça peut aller? Ça, c'est la blessure à la hanche de Jacob. Ou alors, par exemple, le fait de se gargariser en disant « Nous sommes la civilisation du livre », alors que c'est faux. Nous sommes la civilisation de la tradition orale. Et c'est parce qu'on n'a pas de mémoire qu'on met les choses dans un livre. C'est d'afka l'inverse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ben, on se vante d'être le peuple du livre. C'est pas vrai. Et nous sommes le peuple de celui qui donne les livres, mais pas, nous ne sommes pas un peuple de, comment on appelle ça, pire que ça, de libraire. Hein? Nous ne sommes pas un peuple de libraire, pas du tout. Et il y a un verset de Kohelet, nous sommes le peuple de la Torah Shebaalpé. Et elle est mise par écrit de peur qu'elle ne soit oubliée. Il y a un verset du roi Salomon qui dit faire des livres sans fin. C'est à la fin de l'Ecclésiaste. Asot Sfarim Enket, faire des livres sans fin. Il y a un chidouche qui dit de la manière suivante. Asot Sfarim Enket, faire des livres, alors il n'y aura pas de fin. Multiplier les livres fait repousser la venue. Asot Sfarim Enket. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un livre est écrit, il faut relancer une compte. Alors imaginez. Tant que c'est oral, c'est vivant. Mais dès que c'est mis par écrit, alors il faut encore en tenir compte. Ça va jusque-là. Et ça me rappelle une fois un chidouche d'un rabbin qui disait heureusement qu'ils n'auront pas de cloche. Parce que si nous avions des cloches, il faudrait encore agrandir la bibliothèque sur les livres sur les cloches. Et les cloches comment, et les cloches comme ça, et les cloches. Alors, tant que c'est oral, vous comprenez ce que je veux dire? Tant que c'est oral, ça reste vivant. Mais dès que c'est mis par écrit, bref, alors je reviens à la conclusion. Non. Justement, c'est à cause de ce que ça risque de s'oublier, parce qu'on n'est plus capable de mémoire. Vous savez d'ailleurs quel est le dernier verset de la prophétie? C'est un verset de Malachi qui dit « Zichru Torat Moshe Abd ». Souvenez-vous de la loi de Moïse en somme. Souvenez-vous, Zichru. Et avant d'annoncer que le prophète viendra, il dit « Zichru Torat Moshe Abd ». N'oubliez pas. Et vous croyez que, comment dire, vous ne croyez pas que la Chokhma est en Israël parce qu'il y a des livres. C'est ce qu'il y a dans les livres qui est la Chokhma. Mais ce qu'il y a dans les livres, on ne le lit pas dans les livres, on l'apprend de quelqu'un qui fait lire le livre. Et si ce quelqu'un ne l'a pas appris de quelqu'un, c'est-à-dire par la mémoire, personne ne sait de... Le livre il est Hatoum, il est Satoum, il est fermé le livre. Donc quand il est ouvert, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut que le... Vous savez que ça veut dire moré. Moré, ça veut dire celui qui fait voir. Qui... C'est pas le mot. Alors, ça me rappelle, je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Un jour, il y a quelques années, j'ai entendu ça à la radio en Israël, il y avait un reporter, qui faisait un reportage dans les familles, et puis il était dans une famille d'Atis, où il y avait une bibliothèque avec plein de le Talmud, le Midrash, le Yoredea, etc. Elle voulait faire un peu une astuce comme ça, elle dit, s'adresse au chef de famille, il dit, et tu crois que quand on est une puissance, on devient hacham? L'autre ne s'est pas démonté, il a dit, mais cher ami, il faut d'abord être hacham pour pouvoir le toucher. Et c'est vrai. Alors, revenons au problème. Les hachamim s'appellent des talmidei hachamim. Alors finalement, on arrive au dernier rashi que je voulais vous faire lire. Rashi dit ceci, sur Im Laban Garti Vaechar Arata. J'ai séjourné avec là-bas et j'ai tardé, jusqu'à présent. Alors Rashi donne deux explications. Premièrement, il dit Garti, j'ai séjourné, ça veut dire j'ai été guerre, j'ai été étranger. Et voilà l'explication que donne Rashi. Pas simplement j'ai habité là-bas et j'ai tardé jusqu'à présent. J'ai séjourné là-bas. Mais ça, en français, ça ne veut plus rien dire. Garti, ça veut dire j'étais comme guerre. Alors voilà ce que Jacob veut dire à Ésaü. Tu crois que parce que j'ai reçu la bénédiction que, soi-disant, tu devais avoir, j'en ai profité, je suis devenu un homme hachoum, en réalité, je n'étais que guerre. Et donc, tu n'as plus à m'en vouloir. Ne crois pas que je t'ai pris quoi que ce soit. Qu'est-ce que je t'ai pris? La condition de mes textes. De ça, tu ne peux pas m'en vouloir. Puisqu'effectivement, à travers toute l'histoire, nous n'avons pas été autre chose. Même quand on s'est cru descendant des Gaulois, c'est bien. On est dans les yeux. Et puis, mais Rashi ajoute, d'avoir à faire, de...